おかしいおかしい。
Dialogue entre Congolais avec Alain Ring de la Présentation.
Bonsoir. Province de l'Équateur, dans une déclaration faite lundi dernier, le mouvement de libération du Congo MLC accuse l'alliance de la majorité présidentielle AMP de déstabiliser le fonctionnement des institutions de cette province. Qu'est-ce qui justifie les accusations du MLC à l'endroit de l'AMP? Trois invités participent à ce débat. Jean-Lucien Boussa, député national élu de Boudjala à l'Équateur et secrétaire général adjoint du MLC chargé de l'idéologie et programme. Il est avec nous dans ce studio. Bonsoir honorable.
Bonsoir.
Louis Kouyagalo Ngasete Gerengo, secrétaire exécutif adjoint de l'alliance de la majorité présidentielle AMP, lui est en ligne. Bonsoir monsieur Kouyagalo.
Bonsoir.
Félicien Kabamba, analyste politique et chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa, également en ligne. Bonsoir Félicien.
Bonsoir.
Vous êtes également nombreux à réagir, notamment Pépé Lissoundi de Kisangani en province orientale qui dit « Je constate que les députés provinciaux du MLC à l'Équateur sont ceux qui ont trahi le parti dans cette province. Ils sont majoritaires et il ne faut pas attaquer l'AMP, mais plutôt le directoire de l'Union pour la Nation. » Mamboura de Boutembo Nord Kivu, l'AMP utilise le principe de diviser pour mieux régner et des gros qui mangent les petits. C'est ainsi que cette plateforme déstabilise l'Équateur. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Le mouvement de libération du Congo dénonce la déstabilisation de la province de l'Équateur par l'AMP, l'alliance de la majorité présidentielle. Message contenu dans une déclaration rendue publique lundi dernier à Kinshasa. Pour illustrer son affirmation, le parti politique de Jean-Pierre Bemba évoque quelques cas. C'est notamment la mise en accusation du président et vice-président de l'Assemblée provinciale, tous membres du MLC. Toujours selon le MLC, l'AMP installe à dessein une instabilité qui bloque toute possibilité de travail parlementaire. D'après Constant Ndaombe, secrétaire général adjoint de ce parti, toutes ces manœuvres ont pour but d'exclure le MLC du contrôle de l'Assemblée provinciale. À cette même occasion, le MLC a exigé la libération du président fédéral de la Tchopo, détenu par l'Agence nationale de renseignement ANR en province orientale. On écoute Ndamda Ombel au micro de Mimi Ngumba.
Et c'est donc au terme de cette enquête qui établit qu'il y a mégestion, qui établit qu'il y a détournement, que la plénière de l'Assemblée peut déférer le président ou son vice-président ou tout le bureau en justice. Et nous sommes étonnés. Et non, on s'acharne à les convoquer. Et cela se passe quand l'Assemblée provinciale est en pleine session. Et c'est à ce moment-là que l'on convoque son président et le vice-président. Et ils sont donc à perturber le bon fonctionnement de l'Assemblée provinciale. Nous sommes fondés de dire que c'est un complot. Pas parce qu'on n'en a pas fini avec l'Équateur. Maintenant, on s'attaque au cadre du parti, notamment le président de la Fédération de la Tchopo dans la province orientale. Là aussi, nous demandons qu'on puisse les libérer vraiment sans délai.
Honorable Lucien Boussa, il y a également deux auditeurs de Mbanda de l'Équateur hein, qui pose la question principale de cette émission. Qu'est-ce qui justifie les accusations du MLC à l'endroit de l'AMP? C'est notamment Julio Katikiro qui dit « Le MLC ne doit donc pas se limiter seulement à crier gratuitement que c'est l'AMP qui est à la base de différentes crises dans les institutions provinciales de l'Équateur, mais il doit aussi le démontrer avec des preuves matérielles pour que l'opinion publique puisse mieux le comprendre. » Il y a également Blanchard Luana de Mbandaka. Pourquoi le MLC cherche toujours à imputer à l'AMP plusieurs charges qu'il ne lui incombe pas? Est-ce que le MLC dispose des preuves matérielles pour culpabiliser l'AMP de la déstabilisation des institutions provinciales de l'Équateur?
Merci pour la question. Je crois que je voudrais de prime abord indiquer que ce qui arrive à l'Équateur procède d'une stratégie globale qui a consisté après les élections de 2006, pour l'AMP, PPRD, de pouvoir contrôler l'ensemble des provinces du pays. Vous savez ce qui s'est passé à Kinshasa, alors que tout le monde sait que l'AMP est minoritaire à Kinshasa, l'argent a circulé pour imposer un gouverneur, dirait un non élu, lorsqu'il a été candidat député national. Deuxième fait, c'est au Bas-Congo. Tout le monde sait ce qui s'est passé au Bas-Congo. la corruption a été à la base du désordre et des tueries massives, n'est-ce pas, au niveau du Bas-Congo. Tout ceci parce que le MLC, plutôt l'ANP, voulait imposer son gouverneur par les voies de l'argent, par les voies de la force, et on le sait. Il ne reste ce qui s'est passé aussi, c'est aussi au niveau du Cassé occidental à l'époque, lorsqu'il a fallu élire le gouverneur de province, c'est la même méthode, la même stratégie qui s'est imposée. Ne parlons pas du Cassé oriental. À l'Équateur, malheureusement pour l'ANP à l'époque, il n'était pas possible donc de pouvoir évincer, enfin de pouvoir faire passer la stratégie ANP, mais avec le temps, ils ont réussi à imposer la même stratégie. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour l'ANP, il fallait, alors qu'ils ont le pouvoir au niveau central, il fallait contrôler à tout prix l'ensemble des provinces. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. J'ai une déclaration d'un membre de l'ANP après les élections du gouverneur de province de l'Équateur, qui est passé sur la RTNC pour dire « La question de l'Équateur est une question de vie ou de mort. L'ANP doit absolument assurer les contrôles politiques de la province de l'Équateur. » Donc, il n'y a pas de preuve qui manque, parce que les éléments existent. Donc, moi, j'ai dit, il s'agit donc pour l'ANP de finaliser un processus qui a été engagé après 2006 au niveau des gouverneurs de province. Qu'est-ce qui s'est passé alors au niveau de la province de l'Équateur? Tout le monde sait qu'après le départ de l'ancien gouverneur, l'ANP avait trouvé l'occasion belle pour pouvoir mettre en œuvre sa stratégie. Au départ, et je voudrais vous rappeler, qu'on a voulu d'abord faire partir le gouverneur, plutôt le bureau de l'Assemblée provinciale, qui est en majorité MLC, avant l'élection du nouveau gouverneur. Rappelez-vous qu'à l'époque, le président de l'Assemblée provinciale a été accusé, semble-t-il, parce qu'il aurait donné ordre aux policiers de tirer au sein de l'Assemblée provinciale. J'ai fait partie de la mission qui accompagnait le ministre de l'Intérieur, l'ancien ministre de l'Intérieur Mbouyou, avec une panoplie d'autres cadres de l'armée, de la sécurité, pour pouvoir voir clair sur ce dossier. Il s'est avéré à la visite de lieu qu'il n'en était pas question. Malheureusement, lorsque cette stratégie ne tourne pas, ils vont maintenant mettre le paquet pour pouvoir débaucher et placer un gouverneur qui répondait aux ordres de l'ANP. Aujourd'hui, la question est à la recherche de l'équilibre, parce que lorsqu'ils ont mis en place leur gouverneur, il y a un équilibre qu'il fallait aussi mettre en place avec les acteurs qui ont aidé à placer les gouverneurs. Les uns devaient être président de l'Assemblée provinciale, d'autres questeurs, d'autres encore vice-présidents. Aujourd'hui, nous sommes à la recherche de cette volonté de l'ANP, ils sont à la recherche de cette volonté de pouvoir consacrer la totalité du gouvernement, de la prise totale, pardon, des institutions politiques de l'Équateur par l'ANP.
Mais honorable Lucien Boussa, vous parlez d'une stratégie globale au niveau de la majorité pour rafler tous les postes, mais cela n'est-il pas normal dans une démocratie?
Ah non, c'est pas normal, je suis désolé. Dans une démocratie, je crois qu'on vit une vraie démocratie dans ce pays. Où on parle de démocratie avec l'état d'esprit de la Deuxième République, où c'est la dictature ou le totalitarisme, où on veut véritablement la démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Comment voulez-vous quelqu'un qui a échoué aux élections législatives, je ne pense pas que c'est le cas, puisse, dans une ville ou dans une province qui n'est pas majoritaire, être proposé par un groupe politique qui gouverne, oppose le gouverneur? Et par le jeu de l'argent, on les pose. C'est pas de la démocratie, je suis désolé. N'est-ce pas? Je crois qu'il y a un véritable problème. Des biais sont introduits dans notre démocratie. Et je pense qu'il va de la responsabilité de l'élite congolaise au pouvoir comme dans l'opposition de pouvoir normaliser le jeu démocratique.
Nous avons dans cette émission le secrétaire exécutif adjoint de l'Alliance de la majorité présidentielle, Luikoe Gallo, Ngbasete Gerengo. Comment réagissez-vous aux accusations du MSC?
Eh bien, je vais commencer par saluer mon frère Lucien Boussa, un brillant parlementaire. Et j'ai dit à travers son intervention de tout à l'heure qu'il a beaucoup parlé sans répondre aux deux questions précises posées justement par les habitants de la province de l'Équateur. Est-ce que l'honorable Jean-Lucien Boussa a de preuves pour démontrer que l'AMP est en train de déstabiliser les institutions dans la province de l'Équateur pour en assurer la direction? Moi, je dis que l'honorable Boussa, que je connais très bien, que j'apprécie, et je le dis sincèrement, aurait pu avoir la franchise de dire à tous ceux qui nous écoutent ce soir que le problème de l'Équateur ne date pas d'aujourd'hui. Je m'en vais pour preuve. En 2007, il y avait un problème de gestion de la province par le bureau. Il y a eu la commission dite commission Ilunga. Et je crois que ça rappelle quelque chose à l'honorable Moussa. Et bien, la commission Ilunga, pour un audit interne, avait établi une mauvaise gestion du bureau. Et le bureau a refusé que le rapport de cette commission-là soit débattu en plénière et que les recommandations soient adoptées. Les députés provinciaux de l'Équateur sont là, toutes tendances confondues, ils sont en train de m'écouter. Le 30 juin, devant toute la population de l'Équateur désabusée et baillie, 30 juin 2007, l'honorable Boussa a fait qu'il y a eu altercation entre le président de l'Assemblée provinciale et le gouverneur José Makila Soumanda. C'était à propos de la gestion de fonds que le gouvernement central a alloué à la province pour l'organisation de la fête. Je ne veux pas ici dire ce qu'ils se sont dit publiquement pour s'insulter. En 2008, le normal de Boussa le sait très bien, et il va le dire à vos éditeurs. Il y a eu la commission Bonnema qui a fait également le contrôle de la gestion de l'Assemblée nationale, le fonds alloué à l'Assemblée nationale, provinciale. Mais le rapport de cette commission-là n'a pas été non plus débattu en plénière. Et la goutte d'eau qui aura fait déborder la bouteille, c'est le paiement des indemnités de sortie reconnues par le président Mondombo lui-même, que je salue en passant, qui dit qu'il a tout simplement accordé une avance d'indemnité de sortie en marge du découpage territorial. Honorable Boussa, est-ce que notre province est découpée? Et je dis non. Et les députés, dans leur majorité, ont dit que c'était un détournement inacceptable, répétitif, et qu'il fallait pour cela aller en justice. Ils sont allés en justice. 11 députés ont signé pour déférer les membres du bureau devant la justice. Et le tribunal compétent, c'est lequel? C'est la Cour suprême de justice par le biais du parquet général de la République. C'est ce qui a été fait. Est-ce que l'honorable Boussa, mon frère que j'aime bien, que j'apprécie, il le sait, il peut me dire dans ce parcours-là une seule lettre, un seul acte de procédure posé par celui qui a dirigé hier l'AMP, l'honorable Katumba Mwanke, ou maintenant qu'il a démissionné, moi, pour déférer l'honorable Mondombo devant la justice, s'il en a qu'il prouve, pour donner la réponse aux deux auditeurs-là, dont j'ai apprécié l'intervention, que l'honorable Boussa nous prouve par un document écrit que l'AMP a déposé plainte contre le bureau, que l'AMP a envoyé les députés de la commission Ilunga pour faire un audit interne. L'AMP a demandé à l'honorable Bonnema de présider une commission pour une audit interne. Or là, je crois que l'honorable Boussa aura difficile à le prouver. Aucune difficulté de ce genre-là. Je crois que tout intellectuel que je le reconnais devrait plutôt s'abstenir d'accuser.
Lucoya Diallo, merci. Félicien Kabamba, vous êtes analyste politique et chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Vous avez suivi les deux intervenants, Jean-Lucien Boussa et Lucoya Diallo. Finalement, à ce niveau, ce jeu politique n'est-il pas normal dans un jeu politique l'on assiste à des pareilles situations?
Je crois qu'il faut plutôt poser cette question autrement, parce que quand nous suivons les acteurs politiques s'exprimer tels qu'ils viennent de le faire tout à l'heure, eh bien, il y a beaucoup de questions à se poser. Nous sommes dans une conception, nous quittons en fait une conception fonctionnaliste de l'État, où l'on doit attendre de l'État un certain nombre de prestations de services, du genre service de transport, du genre service de l'eau, de l'électricité,
nous tombons, en fait, parce que la conception de la fonctionnalité de l'État pose la question à quoi faire l'État. Mais là, je crois qu'on nous amène à poser une nouvelle question. À changer la question à quoi faire l'État pour poser la question à qui faire l'État. Et là, nous sommes dans une conception prédatrice de l'État. Quand vous suivez tous les acteurs tels qu'ils viennent de se prononcer tout à l'heure, eh bien, on retrouve finalement Achille Bembe qui dit que l'utilisation de l'État en Afrique, et si nous remplaçons l'Afrique par la RDC, obéit en fait à une logique cannibale.
C'est-à-dire
lui-même étant considéré comme un entrepôt. Et l'action politique prenant la forme d'une sorte de ragia, au terme de laquelle on se partage les défis de l'État. Les acteurs, apparemment, cherchent à extraire le maximum de ressources publiques en un minimum de temps, ce qui est complètement inacceptable. Mais j'aurais quand même souhaité encore écouter les acteurs, parce qu'apparemment, j'ai l'impression qu'il y a deux logiques qui se dégagent. Une première logique situe la crise dans le cadre des relations entre Kinshasa et les provinces, et donc entre l'ANP et l'ANC, l'ANC qui contrôle la province de l'Équateur, et une deuxième logique qui en fait considère la crise comme le résultat de contradictions internes à la province. Et je voudrais bien qu'on avance sur ces dossiers, sur ces registres-là.
Mais Félicien Kabamba, si je devrais réorienter ma question, en fait, on remarque dans d'autres démocraties, la majorité, c'est vrai, a toujours tendance à vouloir récupérer certains postes et l'opposition à se recroqueviller ou à résister. C'est pourquoi j'ai demandé si, dans un jeu politique, cette situation n'était pas normale.
Je crois que le jeu politique répond à un ensemble de règles. Et ces règles sont les règles définies aussi bien par la Constitution et par les lois. Bien entendu, il y a toujours un ensemble de consensus, de toutes sortes de consensus, chaque fois que les acteurs n'arrivent pas à s'entendre. Mais dans le cas précis de l'Équateur, on ne semble pas voir se dégager un consensus. Et donc, il y a une sorte de déchirement qui finalement affecte le fonctionnement de l'appareil de l'État.
Voilà, honorable Lucien Boussa, il y a Kakuli Sefou-Gustave de Kalimio-Katanga qui dit « À l'Assemblée provinciale de l'Équateur, l'Union pour la Nation est majoritaire, donc l'ANP n'a pas à s'imposer. L'accusation du NLC n'est-elle pas gratuite ?» Vous répondez également à Louis Koyagallo qui a insisté sur les preuves.
Mais d'abord, je voudrais répondre à l'auditeur que beaucoup de députés MLC ont traversé la rue avec armes et bagages. M. Bayede, actuel gouverneur de province, élu vice-gouverneur sur la liste du MLC, a été aujourd'hui il est membre de l'AMP, il réclame haut et fort. Les vice-gouverneurs aujourd'hui, c'est la même chose. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une logique. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons des institutions démocratiques avec sa déclinaison logique en termes de respect. De chaque groupe, nous sommes minoritaires à l'Assemblée nationale, nous assumons de faire l'opposition responsable et républicaine, et nous y allons jusqu'au bout en attendant les élections. N'est-ce pas? Je suis dit, mon grand frère collègue Yalo, que je salue en passant aussi, parce que je le respecte, mais il sait, parce que c'est un chrétien, il connaît sa propre implication dans ce qui se passe à l'Équateur. Lorsque nous sommes allés, pour ne donner qu'un exemple, moi-même j'étais candidat gouverneur, lorsque nous y sommes allés, mais chaque député provincial a reçu l'argent de qui s'est sorti de ses caisses. Et sa trésorière, c'est elle qui a amené l'argent. C'est cette trésorière qui a fait la déclaration après les élections à l'Équateur pour dire que c'est une question de vie ou de mort. C'est une preuve, cher ami. J'ai fait partie de la délégation conduite par le ministre de l'Intérieur à l'époque où la crise s'était enclenchée à l'Équateur. J'ai participé à toutes les discussions avec les acteurs provinciaux. Gouverneur de province intérimaire à l'époque, ministre provincial à l'époque, député provincial. Il est clair que le tirage de ficelle se trouve tapis dans l'ombre au sein de l'AMP. J'ai des preuves de ce que je suis en train de dire. Et donc, je peux ajouter d'autres preuves pour expliquer-vous que, par rapport à ces dossiers, n'est-ce pas, que l'avocat général de la République appelle le gouverneur de province, demande au gouverneur des provinces d'acheter des titres de voyage pour le président de l'Assemblée provinciale, son vice-président, afin de rejoindre les cours de tribunal à Kinshasa. Ça ne se passe qu'en République démocratique du Congo et en Bamako, où la justice se met en connivence avec les politiques et instruit les politiques pour acheter des billets. Troisième élément, M. Koya Diallo me suit très bien, je crois qu'il le sait aussi,
Madame Lokoumou, ancien vice-gouverneur, a été envoyée le 22 février auprès du président de l'Assemblée provinciale de l'Équateur et du vice-président par les procureurs, c'est Madame Kirini, procureur général de la République, pour demander à ces deux messieurs de pouvoir démissionner, sinon le pire leur arriverait. Voilà les preuves. Par contre, parlons du dossier tel qu'il se présente au niveau de la justice, c'est-à-dire le paiement anticipé des indemnités de sortie, etc. Mais là aussi, je voudrais rappeler la procédure budgétaire. Le MLC ne soutient pas la mauvaise gouvernance. Au moment où nous parlons, il y a un dossier, parce que M. Kouyag a cité le dossier de détournement de fonds, mais il sait que le Sénat a mis en accusation le gouverneur de province pour détournement de fonds publics, mais en même temps, il sait que les rétrocessions destinées aux entités territoriales décentralisées sont remises à un groupe de députés provinciaux qui soutiennent l'action du MLC, de l'AMP à l'Équateur, et le chef de secteur n'a pas d'argent, ces dossiers se trouvent en justice. Le procureur n'est pas pressé pour s'en occuper. Voilà pourquoi j'ai dit, et le MLC le dit, c'est que c'est une manipulation politique. Je vais en arriver en ce qui concerne les indemnités de sortie. Parce qu'il faut connaître les principes budgétaires. Il faut connaître les principes d'orthodoxie de la gestion des finances publiques avant d'en arriver à la conclusion. J'espère que vous allez me passer la parole.
Lui, Koyagialo, il y a des auditeurs qui nous écrivent. Clovis Bilimbe de Mbandaka, l'Équateur, qui dit « L'accusation du MLC est fondée malgré la raison poussée par M. Koyagialo. Il faut savoir que les députés dits acquis au changement sont dirigés par leurs collègues proches et membres de l'ANP. » Sango Malo de Mbandaka, l'Équateur, je pense que l'ANP manipule les députés, soi-disant acquis au changement, pour déstabiliser l'Équateur, ce qui est une mauvaise politique qui ne tend pas à développer notre province.
Eh bien, ce sont des questions qui, à mon avis, sont basées sur les apparences. Moi, je suis de l'Équateur et je suis secrétaire exécutif adjoint de l'ANP. Je pense sincèrement compter quand même beaucoup de relations dans la province, dans ma province, et même au sein de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Ce n'est pas parce que Koyagialo a des relations personnelles avec quelques députés de l'Équateur que vous allez dire que nous sommes en train de manipuler. Et sur base de quoi d'abord? Parce que la création de cette dynamique de députés acquis au changement n'a rien à voir avec l'AMP. C'est une dynamique de renonciation, de contestation de la médiocrité qui a donné lieu à l'élection du gouverneur et qui est en train de jouer pour qu'il y ait la transparence de la gestion de fonds alloués à la province, à l'Assemblée provinciale. Et dans cette dynamique-là, il y a les députés du MLC, j'en connais beaucoup. Vous savez que le gros des troupes du MLC vient du nord de l'Équateur. Eh bien, j'en connais beaucoup, je ne vais pas citer ici les noms, qui font partie du noyau agissant de la dynamique des députés acquis au changement. Et ce n'est pas parce que je suis du nord que j'ai des relations avec les uns et les autres qu'on va dire que non, je manipule ces gens. Je les connais, comme ceux du sud, j'en connais personnellement. Je les côtoie. Ils sont des MLC. Nous sommes de deux bords différents. Je le constate. Mais cela ne nous empêche pas de parler, de nous téléphoner. Et c'est grâce à eux que je connais tous les éléments que je viens de porter à la connaissance de vos auditeurs. Donc, nous n'avons rien à voir. C'est une contradiction interne relative à la médiocrité qui a donné lieu à une synthèse que nous trouvons à travers les députés, le groupe de députés acquis au changement. Ça n'a aucun rapport alors, aucun rapport avec l'AMP. Et nous, notre intérêt, bien sûr, est que nous n'ayons pas une administration qui nous soit systématiquement hostile. Mais si nous avons une administration conduite par une personne qui est au milieu du village, un indépendant, en la personne du gouverneur, Baïndé. Mais où est le mal pour l'AMP?
Merci.
De voir que voilà au moins quelqu'un qui n'est pas hostile, n'est-ce pas, à l'action de l'AMP et que nous pouvons, à qui nous pouvons apporter notre collaboration. Il n'y a pas du mal à cela. S'il n'y a que ceux qui mal pensent, qu'ils trouvent du mal.
Merci. Félicien Kabamba, il y a Moupoisso Kiro du Siro en province orientale qui dit « À cause de cette façon de faire la politique, l'avenir de la démocratie devient hypothétique en RDC. »
Oui, bon, disons que le problème est attribué à plusieurs choses. Il y a d'abord aussi la conception du local par les acteurs. Je parle là du pouvoir local, c'est-à-dire du pouvoir provincial ou du pouvoir au niveau des territoires. J'ai l'impression que le pouvoir central se considère comme une sphère assez ordonnée et qui doit de ce fait ordonner l'identité caritative. Non, non, cette vision du local engage en fait une sorte de conception du politique qui confine les sphères locales dans le contexte du genre, le monde en apporté, le voisinage, et les met en marge précisément du champ politique proprement dit. Ainsi, le local se trouve en fait au bord du politique. Je sais tout un peu, mais cela traduit mieux la conception du politique, donc du local par les acteurs. De l'autre côté, vous avez les acteurs politiques locaux qui considèrent la nouvelle architecture politique, et donc le local, comme une occasion de délocaliser dans les provinces les pratiques qui étaient jusque-là en vigueur à Kinshasa. Et cette conception du local me semble dangereuse. Si, au niveau de Kinshasa et au niveau du local, on n'arrive pas à bien arrêter une bonne conceptualisation, donc une bonne compréhension du concept du local, je crois qu'il n'y a rien et c'est rien qui peut se produire. Parce qu'en fait, quand vous regardez au niveau local, vous vous rendez compte que l'État est devenu en fait le produit de force en présence. Même si on peut attiser tout ça, mais on ne peut pas non plus ignorer le jeu des acteurs, les logiques des acteurs locaux, qui en fait sont des acteurs, même s'ils sont manipulés, encore que là il faut qu'il y ait suffisamment de force, même s'ils sont manipulés, sont des acteurs conscients. Ce ne sont pas des jeunes gens, ce ne sont pas des petits-enfants, c'est des acteurs conscients. Nous, qui doivent prendre conscience de l'existence d'un État local, qu'il faut en fait consolider, qu'il faut renforcer, et il me semble que ce n'est pas encore le cas. Les élites locales semblent squatter leur propre État et ne participent pas à sa construction comme la population l'attend. Et donc là, il y a un grand problème, qui est le problème de la construction du local, qui est, à mon avis, l'objectif principal du gouvernement et du Parlement professionnel.
Rendons-nous à Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Nous avons en ligne Dominique Wolombi, l'un de nos correspondants dans cette province. Dominique, comment fonctionnent à ces jours les institutions provinciales?
Avec l'élection du nouveau gouverneur des provinces et l'investiture du nouveau gouvernement provincial, on croyait la hache des guerres enterrée à l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Mais il n'en est rien. La présente session de cette institution se déroule plutôt en dents de scie avec une majorité relative des députés dits légalistes. Les députés dits acquis au changement qui sont majoritaires boycottent les travaux des bureaux de l'Assemblée qui fait valoir les textes réglementaires qui régissent les assemblées provinciales. La RDC organise des premières avec sa majorité relative qui lui est fidèle. Mais difficile pour elle de prendre de grandes décisions.
Où en est-on avec l'ultimatum donné à l'Assemblée provinciale par la société civile de l'Équateur qui demandait aux partis en conflit de revenir au bon sentiment?
Nulle part jusque-là, Alain. La société civile menaçait de désavouer tous les députés provinciaux parce que, dit-elle, ils ne travaillent pas pour l'intérêt de la province, mais plutôt pour assouvir leurs intérêts politiques et partisans. Elle menaçait aussi de demander à la population de ne plus renouveler sa confiance à ses députés aux prochaines élections.
Dernière question, Dominique. Cette crise a-t-elle des répercussions sur le fonctionnement de la province de l'Équateur?
Oui, selon des observateurs, les gouvernements provinciaux gèrent la province à l'abri de tout contrôle de sa gestion. Et tout cela arrive parce que la majorité à l'Assemblée a changé de camp. L'Union pour la Nation, qui dirige les bureaux de cette institution, a perdu cette majorité au profit de l'ANP, qui entend maintenant, avec ses députés acquis au changement, conquérir les perchoirs de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Et ses députés ne cachent pas leur agenda.
Merci Dominique et bonne soirée à Mbandaka.
Bonne soirée à vous autant, Alain.
Sachez qu'hier mardi, le groupe majoritaire des députés dits acquis au changement a fait une nouvelle déclaration politique dans un mémorandum adressé au chef de l'État. Il réitère le retrait de confiance au bureau permanent et donne un ultimatum de quelques jours avant de mener des actions pour le départ forcé de ses membres. Pour leur part, les députés dits loyalistes pensent que c'est dans l'hémicycle que l'on doit trouver des solutions aux problèmes de cette institution et non dehors. Ils appellent plutôt leurs collègues à siéger pour tirer au clair tous les griefs dont ils reprochent les membres du bureau. Honorable Jean-Lucien Boussa, vient de le suivre, hein, la province de l'Équateur fonctionne pratiquement difficilement. Que gagne la population dans cette guéguerre AMP, opposition, majorité?
Non, mais d'abord, je reviens sur la question fondamentale, soulevée tout à l'heure par M. Kouagian, la médiocrité. Mais la médiocrité est là. Mais qui est l'impulseur de la médiocrité? Au moment où nous avons l'élection de gouverneur de province, monsieur que l'AMP considère comme modéré, qu'il a recruté dans le rang du MLC, mais il traîne des casseroles, il a un dossier au Sénat. Aujourd'hui, le Sénat a déposé ses dossiers à la Cour suprême de justice. Qu'est-ce que l'excellence, n'est-ce pas, de l'AMP est en train de faire pour que la transparence de la gestion des fonds publics soit véritablement, soit véritablement les gages d'une vraie gestion? Il n'y a rien. La médiocrité en question. Mais comment voulez-vous que les députés provinciaux disent non, nous faisons un ultimatum, si le bureau ne démissionnait pas, nous allons mener des actions de casse. Ils ont dit ça hier. Une action de casse par les députés dit à qui au changement que M. Kouagian est en train de soutenir. M. Kouagian a affirmé tout à l'heure, il fallait quelqu'un qui n'est pas hostile à l'AMP. Alors vous comprenez que tout est clair. Je voudrais revenir sur la question essentielle. Effectivement, mais c'est la population de l'Équateur qui est en train de perdre. Savez-vous que les rétrocessions n'arrivent pas au secteur? Ces rétrocessions sont distribuées par les gouverneurs aux députés acquis au changement, en violation des règles et des procédures. Mais tout ceci sous le regard indifférent du responsable de l'AMP qui, en réalité, dirige aujourd'hui politiquement la province de l'Équateur. Mais je voudrais quand même que l'opinion qui nous suit soit au courant de ce qui se passe. Ces dossiers-là des détournements, entre guillemets, des indemnités de sortie, c'est quoi? Est-ce qu'un budget a été voté? Les règles d'orthodoxie de la gestion des finances publiques imposent aujourd'hui, un, que l'autorité budgétaire au niveau de province, ce sont les députés provinciaux. La question, comment les députés provinciaux à l'époque ont-ils jugé de l'opportunité d'intégrer dans le budget les indemnités de sortie des membres du bureau? La décision, l'édit n'est pas le produit d'un bureau, c'est le produit de l'Assemblée. Et la loi budgétaire, l'édit budgétaire, est une loi pour la province. Ok. Deuxième élément. Mais comment voulez-vous, parce qu'on parle des indemnités de sortie en question, le bureau a touché les 40% de ses indemnités de sortie, et c'est vrai, mais des indemnités prévues par ces députés. Voilà une autre médiocrité. Le même député qui ont inscrit dans le budget de la province des indemnités de sortie pour le membre de leur bureau, je rappelle à l'époque du débat, le député Koloba s'est opposé à cela et la majorité a dit non. Deuxièmement, les mêmes députés ont pris 60% de ces indemnités, ils ont voté à l'unanimité pour demander qu'on leur distribue cet argent parce qu'il y avait des pressions monétaires. Donc, ce qu'il y a à boire et à manger, on a cherché un prétexte. Je voudrais qu'on se rappelle des principes d'orthodoxie de gestion de finances publiques, qu'on se rappelle aussi des principes en matière d'élaboration et d'exécution du budget.
Louis Kouagian, que gagne la population de la province de l'Équateur dans tout ça?
Cette population-là est malheureuse parce que la gabégie dans la province de l'Équateur date de l'installation de nos amis des MLC, règne du pouvoir dans la province de l'Équateur. Vous savez ce qui a été retenu par les députés des MLC compris contre le gouverneur José Makina Soumanda. C'était pas un applaudissement pour une bonne gestion. Et l'honorable Boussa le sait très bien. Alors, ici, l'honorable fait un peu de confusion, parce que c'est pas l'ordre du jour aujourd'hui, par rapport au dossier retenu contre le gouverneur Bayende. Mais le gouverneur Bayende fait l'objet d'une poursuite au niveau du parquet général de la République, et moi je respecte la justice de mon pays.
Et il y a eu un moment où les journaux tiraient à gros titres que le gouverneur Bahende est devant le procureur général de la République, et ce n'était pas faux, il a été entendu. Je crois qu'il faut respecter la justice, laisser la justice utiliser tous les mécanismes qui sont reconnus par la loi et la Constitution pour pouvoir faire aboutir le dossier. Ça, c'est très important. Deuxièmement, l'ANPE ne dirige pas la province de l'Équateur. C'est l'Assemblée provinciale qui conduit la direction de la province de l'Équateur à travers l'exécutif. Et j'étais là, honorable Boussal, lorsqu'on a investi le gouvernement. Vous n'aviez pas voulu venir, vous avez été invité.
Mmh.
Eh bien, moi j'ai vu le programme du gouvernement de la province de l'Équateur adopté à l'unanimité, s'il vous plaît, par les députés, toutes tendances confondues. Et vous n'allez pas dire que c'est l'ANP qui a demandé à mes frères de MLC que je connais, qui siégeaient, qui étaient intervenus pour faire des remarques pertinentes lors des débats sur le programme de la province, et qui par la suite ont adopté à l'unanimité, je souligne, le programme du gouvernement de la province de l'Équateur. Alors maintenant, pour que la province puisse rencontrer les préoccupations de la population, ça ne peut se faire que sous le contrôle de l'Assemblée provinciale. Or justement, cette Assemblée-là, aujourd'hui, n'est que l'ombre d'elle-même, et c'est malheureux. Je constate que c'est tout simplement malheureux. Et alors, dans tout pays organisé, où il y a la démocratie, que prône l'honorable Boussa, lorsqu'on n'a plus une majorité, on remet le tablier. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et le MLC, il se trouve que le MLC, le parti qui est démocratique, pousse des gens, les membres du bureau, à s'opposer à la volonté de la majorité. Et la volonté de la majorité, c'est de 63 députés de la dynamique, des députés acquis au changement.
Merci.
Ils ne veulent pas les écouter et malheureusement, ça continuera à bloquer l'Assemblée provinciale.
Félicien Kabamba, finalement, la province de l'Équateur serait-elle ingouvernable?
Il faut que cette province est en train de rater une chance exceptionnelle. C'est l'unique province dirigée par l'opposition. Et donc, ce qui se passe n'augure pas un lendemain meilleur pour la démocratie dans le contexte de la décentralisation. Nous aurions voulu, évidemment, si le pays nous avait donné des résultats autres que ces résultats actuels, on aurait voulu voir tous ces acteurs politiques, selon leurs différentes tendances, gérer différentes provinces, qui pouvaient, à la fin, nous permettre de comparer les résultats obtenus après les échéances électorales. Donc, avant les prochaines échéances électorales. Mais ce qui se passe maintenant, c'est qu'il devient quasiment difficile de créer l'émulation entre les différentes gestionnaires de provinces, étant donné, en fait, toutes les provinces, en dehors de la province de l'Équateur, sont gérées par un seul courant politique. Mais si les résultats des élections nous avaient donné une photographie qui nous permettait d'avoir plusieurs acteurs, plusieurs courants qui géraient plusieurs provinces, je crois que ça allait donner une autre émulation. Mais aujourd'hui, les spectacles que nous présente la province de l'Équateur est tel qu'il n'y a rien de constructif qui pourrait être fait dans un chaos comme celui-là. Ce chaos est un chaos auquel participent tous les acteurs, aussi bien ceux du pouvoir que ceux de l'opposition. Il faut aussi dire que pouvoir et opposition peuvent changer selon qu'on est à Kinshasa ou qu'on est dans la province de l'Équateur, parce que la province a été tenue par l'opposition. Et donc, l'opposition de Kinshasa devient, à l'Équateur, une opposition qui se dirige, en fait, en opposition au pouvoir établi dans la province de l'Équateur. Mais il n'y a rien de sérieux qui peut se construire dans un tel chaos.
C'est
un chaos qui affecte le fonctionnement de l'appareil de l'État.
Félicien Kabamba.
Oui.
Serait-il aussi question de repositionnement politique à la veille des élections de 2011 pour les deux camps?
Repositionnement politique? Bon, il faut dire que j'ai visité la province de l'Équateur il y a 5 mois. Il y a également, quand on essaie d'analyser la situation de l'Équateur, il y a également des contradictions internes dans la province. Des contradictions qui sont vécues, du genre, le nord et le sud. Et donc, on ne peut pas seulement dire qu'il y a là un problème de l'immixion d'un autre courant politique dans ce qui se passe à l'intérieur de la province, mais il y a également des contradictions, des problèmes internes à la province, des problèmes qui peut-être ne datent pas d'aujourd'hui, mais qui remontent à une période ancienne, qu'il faut intégrer dans l'analyse politique de ce qui se passe aujourd'hui.
Merci. Merci Félicien Kabamba. Nous allons prendre la dernière vague des auditeurs avant d'aborder la dernière partie de cette émission. Lomboto Jean de Mbandaka, l'Équateur, je suis militant du MLC et je pense que Jean-Lucien Boussa a tort car ce sont les députés de toutes tendances confondues qui ont amené le bureau en justice. Mota de Kisangani en province orientale, est-ce que Jean-Lucien Boussa peut nous dire pourquoi les dirigeants du MLC ne savent pas négocier en amont? Jean Wakadilo de Likasio Katanga, si le MLC trouve difficile de jouer son rôle d'opposition qu'il attend 2011. Ucha Ibadi de Bounia, l'accusation du MLC contre l'AMP est fondée car l'AMP, dans la géopolitique, cherche à affaiblir le MLC pour gagner les élections prochaines. Théo Chamba de Kananga au Café Occidental, que le MLC cesse de distraire la population car nous en avons marre des accusations qui n'ont pas des résultats escomptés. Honorable Likoku de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, je suis désolé de l'attitude du MLC car je pense qu'un parti qui veut diriger le pays demain pourrait s'y prendre autrement. Je suis étonné de voir ce parti vouloir politiser une affaire qui n'est pas politique. Aline Riziki d'Ouvira au Sud Kivu, pourquoi la crise perdure à l'Assemblée provinciale de l'Équateur? Est-ce qu'il n'y a pas vraiment une main invisible qui cherche à faire que le bureau ne soit plus dirigé par l'opposition, comme c'était avec le gouvernorat de cette province? Je crains qu'il y ait une dérive dictatoriale de l'AMP dans cette province, comme c'est le cas dans d'autres, où les opposants n'ont rien à dire, craignant les arrestations arbitraires. Jean-Lucien Boussa, brève réaction par rapport à ce qu'ont dit certains ses auditeurs. Exactement. Et vous concluez également.
Non, mais je crois que le député Likoku, qui est un activiste du groupe concerné par ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans la province de l'Équateur, qui était transfuge du MLC, ne peut pas dire autre chose que ce qu'il fait tous les jours depuis plus de 12 mois. Le gars qui s'est présenté comme étant du MLC, je dis très très fort, encore qu'il faut vérifier, je dis simplement qu'il se pose des vraies questions en termes de procédure. Lorsqu'on met en accusation un président de l'Assemblée provinciale, qui doit les faire? Est-ce la plénière ou un ou deux députés plus individuellement? J'imagine que c'est à la suite d'un rapport d'une commission spéciale que ceci doit se décliner en termes de conclusion et que cette conclusion est portée au niveau des instances judiciaires. C'est pas un député qui se plaît de pouvoir accuser le bureau et bon, puisqu'il trouve, une oreille attentive de l'AMP, donc il se prouve de cela. Non, je pense pas. Il y a un vrai problème de respect des procédures à la fois en termes de gestion des assemblées, mais aussi en termes de justice. Ma conclusion est simple. L'AMP veut contrôler totalement la province de l'Équateur par rapport aux échéances 2011. Malheureusement pour l'AMP, le peuple de l'Équateur ne le suivra pas.
Louis Koyagalo, brève réaction également. En guise de conclusion.
Je dirais tout simplement que chacun devrait reconnaître ses faiblesses au lieu de chercher des boucs émissaires. Et chaque fois, j'ai apprécié beaucoup une intervention d'une militante du MLC lorsque le parti a perdu la province de l'Équateur. Cette militante-là, au cours d'une grande réunion, un grand meeting, a dit que nous devons, nous, MLC, cesser d'accuser les autres chaque fois que nous avons perdu.
Merci.
Eh bien, aujourd'hui, il ne faut pas chercher des boucs émissaires, il faut chercher les dossiers, et c'est les dossiers qui touchent le problème de du bureau de l'Assemblée provinciale de l'Équateur.
Merci.
C'est pas l'AMP.
Merci, Félicien Kabamba. Un mot également en guise de conclusion.
Oui, en guise de conclusion, je dis que la crise actuelle participe à l'affaiblissement des institutions. Ce n'est pas une crise qui construit les institutions, mais qui participe activement à leur destruction. Merci. Ce n'est pas dans ce contexte qu'on peut développer la province
Merci. Fin de cette émission qui était réalisée par Guy Maté, assisté de Samuel Kachak, sous la supervision rédactionnelle de Martin Seboujangwe. La mise en onde est signée Mimi Kindou. La présentation, Alain Hirung Mouchige. Restez branchés sur Radio Kati.
Okapi, okapi, okapi.